des vœux préfectoraux et ministériels à Digne.
La traditionnelle réception préfectorale a été marquée par la présence de Christophe Castaner, personnalité habituée de l'exercice, mais cette fois présent en tant que membre du gouvernement. De plus, le secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement a remis une prestigieuse décoration au préfet Bernard Guérin. Nous y reviendrons demain. Une foule de personnalités du département, mais également le consul général du Japon, a assisté à la cérémonie qu'animait tant bien que mal un trio de musiciennes, malgré le brouhaha et les bavardages. Dans une intervention de plus de 40 minutes, Bernard Guérin a évoqué les réalisations et les perspectives pour les Alpes de Haute-Provence. Il rappelait les missions communes aux élus et aux préfets, dans son cas, agir pour améliorer la vie quotidienne des Bas-Alpins, mais aussi faire en sorte que nos enfants vivent mieux que nous, a-t-il souligné. Abordant de nombreux sujets, du terrorisme à la situation économique et du réchauffement climatique à la future école de la deuxième chance qui va concerner le 04, il a dressé un tableau sans phare de son activité et de ses souhaits. En fait, le suivi de la feuille de route fixée par Emmanuel Macron au préfet de notre pays en 3 points. D'abord, protéger les Français, puis garantir leurs droits et libertés, et enfin, servir les Français. Et pour le premier point, il rappelait la surveillance active du territoire des Alpes de Haute-Provence l'an passé pour éviter les radicalisations, la mobilisation des services sur une 50aine de personnes suivies, dont 2 avec action en justice. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. Le préfet évoque la reprise économique, la nouvelle politique agricole commune, l'environnement et la flexécurité, mais d'abord, un moment fort de son discours concernant les migrants et l'accueil qui leur a été réservé dans plusieurs communes du 04. Le préfet salue les élans de solidarité des élus comme des associations, tout en restant pragmatique sur le sujet. Bernard Guérin.
Un autre sujet aussi sur la protection, et je tiens à vous saluer, mesdames et messieurs les maires, pour votre l'humanité que vous avez exprimée à l'égard des migrants. Nous avons eu ici, dès le départ, un accueil pour les migrants. Alors, entendons-nous bien, c'est les migrants que nous accueillons, mais ensuite, après, on détermine s'ils peuvent bénéficier du statut de réfugié politique ou pas. Au départ, eh bien, on ne sait pas. Ils arrivent, ils passent une frontière, ils arrivent chez nous, on les accueille avec humanité, et vous avez été nombreux à accepter de l'accueillir dans vos communes, et je tiens vraiment à vous remercier. Nous sommes dans la région PACA, ceux qui avons le meilleur taux d'accueil dans le département. Je vous donne les chiffres, nous en accueillons 3 pour 1000 migrants, et en fait nous en avons 600 à peu près, migrants, ce qui est quand même beaucoup, alors que dans notre département, c'est 1 pour 1000. Ça veut dire que notre capacité vraiment d'accueil est exemplaire, et même, je peux le dire, au niveau national, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de départements qui aient ainsi fait preuve de tant d'humanité. Pourquoi ? Parce que nous respectons la Constitution. La Constitution, il est dit que toutes les personnes qui sont persécutées dans le pays peuvent trouver asile. Ça remonte à nos pères révolutionnaires. Hein. C'était la première constitution de 1791. Ça a été repris ensuite en 1848 et c'est dans le préambule de notre 5e République. En revanche, dès qu'on a confirmation que la personne ne peut pas bénéficier du statut de réfugié politique, il faut qu'on le reconduise avec humanité. Ça a été difficile. Il y a des maires qui n'ont pas bien compris, mais après ils ont compris, on leur a expliqué. Mais effectivement, c'est humanité et fermeté. Mais nous ne pouvons pas, nous n'avons jamais connu de telle vague migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'est pas fini. Donc, pour mener une vraie politique d'accueil dans les meilleures conditions, et là, je paraphrase un peu M. le ministre parce qu'il intervenait hier sur les radios et j'ai lu effectivement le verbatim de vos interventions, mais c'est vrai que pour bien accueillir les gens, il faut qu'on puisse avoir des conditions les meilleures pour les accueillir. Les gens qui sont persécutés dans leur pays pour leurs convictions, pour leur religion ou pour toute autre raison, ceux-là peuvent bénéficier du statut de réfugié dans des délais d'ailleurs de plus en plus diligents. Nous étions dans des délais assez longs et de plus en plus, ce sera possible. Le président de la République a demandé que ce soit pas plus de 2 mois et l'OFPRA, l'Office des réfugiés patriotes, s'est engagé effectivement à ce que ce soit pas plus de 2 mois. En revanche, les gens qui sont déboutés du droit d'asile, ceux-là, effectivement, il faut que nous les reconduisions dans des pays sûrs, évidemment, mais nous devons les reconduire, sinon nous serons incapables d'assurer l'accueil des personnes qui sont persécutées. Je voulais vous le dire, mais en même temps saluer votre humanité. Je veux également vous dire que sur le deuxième impératif que nous a fixé le chef de l'État, d'État sur la garantie des droits et libertés. Évidemment, ça ne vous surprendra pas, c'est d'abord la reprise économique. J'étais heureux d'entendre hier, à la bouche du président de la Chambre de commerce, des chiffres très positifs, merci Roland, des chiffres très positifs, à quel point ça va bien, la croissance repart évidemment de belle manière. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne reste ici ou là des fractures territoriales, sociales, numériques, etc. Nous, ce que nous essayons de faire, évidemment, c'est de réduire aussi, de continuer à réduire les déficits publics, et pourtant, sans sacrifier pour autant l'investissement. Chaque année, nous mettons à la disposition des maires un peu plus de 12 millions d'euros, avec un effet levier de 1 à 3, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on accorde 12 millions d'euros de dotation du DETR ou de FSIN, les maires connaissent bien, ça fait 1 sur 3, ça fait 40 millions. Donc chaque année, c'est 40 millions d'euros qui participent de l'économie et de l'investissement public dans le département. Et c'est une très très bonne chose. Et je dois dire d'ailleurs que ces dotations ont augmenté. Elle n'était en 2011 que de 4,8 millions d'euros. Elle est passée maintenant à 9,5 millions d'euros pour ce qui concerne la DETR. La garantie des droits, évidemment aussi, c'est de favoriser l'environnement des entreprises. On encourage toutes les initiatives de développement économique. Je pense évidemment déjà à tout ce qui peut permettre de mieux marketer le territoire. Je sais que la Chambre de commerce y travaille, puisque les termes d'intelligence collective, on les partage ensemble. Les termes de marketing du territoire aussi. Il y a le projet de loi sur le droit à l'erreur qui va être appelé devant l'Assemblée au mois de janvier, qui doit nous permettre, nous l'État, de changer d'attitude et de contribuer encore à simplifier la vie des entreprises. C'est vrai qu'on ne me reprochera jamais de ne pas être proche des entreprises, je crois que c'est dans ma culture, mais si on peut en faire plus, eh bien on fera plus. Pour là aussi, comme un peu sur ces incivilités, mais c'est un autre sujet qui implique la vie des Français, là c'est les petits obstacles que l'on met sous les pieds des entreprises et qui peuvent retarder la création, le développement, etc. Donc toutes ces simplifications qui peuvent être faites, évidemment, le seront, de façon à ce que ça puisse intervenir sur le coût du travail. Vous avez des labels également qui sont à votre disposition, je pense notamment au label French Tech, etc., toujours dans un environnement qui est favorable. Le CICE, le directeur des finances publiques, nous rappelait hier, c'est 20 millions d'euros quand même l'année dernière, et que donc on va poursuivre avec les exonérations de charges sociales. La garantie aussi des droits et libertés, c'est le soutien aux agriculteurs. Ça, il le sait, le président Comte, c'est un soutien franc et massif de la préfecture, mais de la DDT en particulier, pour notamment faire en sorte que, c'est pas rien, la nouvelle politique agricole commune qui a eu tant de mal à se mettre en œuvre, c'est 57 millions d'euros par an. C'était 50 millions avec la PAC, la politique agricole commune précédente. C'est 57 millions, et encore sans compter les mesures agro-environnementales qui devraient à peu près avoisiner les 2 à 3 millions. Donc c'est quasiment 60 millions d'euros pour 1800 agriculteurs et éleveurs. Mais c'est vrai qu'au début, on a eu du mal, parce que les procédures ont été revues, les logiciels étaient de l'air de rien, mais le logiciel, c'est plus compliqué la vie. Et on a eu du mal, mais maintenant, on est en capacité, effectivement, de répondre de manière plus réactive. Derrière, il y a des situations urgentes. Il le sait, le président Comte, il le président de la Chambre d'agriculture également. Nous essayons, à peu près, les jeunes agriculteurs aussi, bien sûr, vous oubliez. Et nous avons à chaque fois des leviers pour essayer de réagir rapidement. Nous sommes aussi présents, évidemment, sur le loup. Le loup, c'est 6 millions d'euros de protection chaque année. Nous mangeons quasiment un tiers, ou entre un tiers et un quart de l'enveloppe nationale pour la protection. Donc on ne peut pas dire que dans le département, on ne se protège pas contre la prédation du loup. Mais il faut que l'on continue. Et aujourd'hui, donc, il y a un débat qui s'est soumis à la consultation publique pour le nouveau plan national. La garantie également de vos droits et libertés, c'est la lutte contre le réchauffement climatique, c'est la protection de la ressource en eau, de toutes les manières, et l'investissement dans tous les secteurs innovants que l'on accompagnera, dans les énergies propres, de façon à être là aussi très souple. C'est là, notamment le guichet unique sur le photovoltaïque, on va en ouvrir d'autres sur d'autres domaines, de façon à ce qu'on puisse travailler immédiatement en mode projet et que ce ne soit pas le parcours du combattant pour le créateur, le porteur de projet. Il faut encore une fois qu'on réduise les étapes et les obstacles. C'est aussi les déplacements doux, il y a des actions qui sont menées concrètes. Je vous avais inauguré encore récemment. C'est aussi des éco-quartiers. Maintenant, vous n'êtes plus seul, monsieur le ministre. Voilà. Il y a Volonne qui a le deuxième éco-quartier, très fort calqué. Il y aura d'autres éco-quartiers, nous les accompagnerons de même manière. C'est aussi la revitalisation du centre-ville. Alors, il y a le contrat cœur de ville. On va intervenir sur sur les deux villes, sur deux ou trois villes. On va voir qui est candidat pour être dans ce projet, mais en fait c'est très simple, c'est d'associer donc la réhabilitation d'habitats dégradés, parce qu'on ne peut pas mettre des commerces s'il n'y a pas d'habitants. On peut aujourd'hui faire revenir des habitants, parce que les personnes âgées reviennent quand il y a des services dans la ville, ils reviennent dans les centres-villes, ils ne peuvent pas faire beaucoup de déplacements, donc on a vraiment une politique cohérente à mener avec le retour des personnes, de personnes pas nécessairement âgées. S'il y a des personnes âgées, il y aura des personnes jeunes pour tenir les commerces ou les services. Donc on reconstruit l'habitat, les copropriétés dégradées. Là, à ce moment-là, on met des services, on fait des commerces et on peut avoir effectivement la satisfaction que notre politique a été réussie. Et puis ensuite, après, c'est un vrai sujet parce que là, je considère en tant que préfet qu'avec le directeur du travail, mais aussi les sous-préfets, on doit promouvoir les mesures gouvernementales, c'est notamment les ordonnances travail, qui ont, vous l'avez tous bien vu, hein, qui met en avant, qui promeut l'innovation, parce que sans innovation, il n'y a aucun progrès technique, et sans progrès technique, il n'y a pas de progrès social. C'est ainsi. C'est pour ça que donc ces ordonnances ont introduit une nouvelle flexibilité, une flexibilité pour les entreprises, mais qui en même temps doit avoir un pendant. Et c'est ce qui va être discuté dans les semaines à venir sur les lois allocation chômage, sur la réforme de l'apprentissage, du retour à l'emploi, etc. Donc la flexibilité répond effectivement à la sécurité. Et nous irons faire de la promotion de ces dispositions de façon à ce que nous ayons une main-d'œuvre toujours plus qualifiée, toujours mieux formée, grâce au campus de métiers aussi, qui va nous permettre, et aux autres structures. Parce qu'il y a pour nous une obligation. Pour notre mission de garantir des droits et des libertés, c'est tel que je l'ai décliné, à partir de l'impératif du président de la République, c'est de ne laisser personne au bord du chemin.